RTL, il est midi et demi.
Sur RTL,
le journal inattendu, Marie Drucker.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de RTL. J'espère que le week-end a bien débuté. Très heureuse de vous retrouver pour le journal inattendu d'un médecin, chirurgien, animateur d'émissions de télévision et de radio, pédagogue, l'un des membres fondateurs de l'association La Chaîne de l'Espoir, que l'on a beaucoup soutenu sur RTL, et à l'occasion historien, entre guillemets, parce qu'il se défend de l'être, puisqu'il publie chez Stock Hippocrate aux Enfers, un livre dont on va beaucoup parler sur les médecins des camps de la mort. Michel Simès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RTL, le grand public en particulier celui de France Télévisions et de RTL, vous connaît bien. Avec votre camarade Marina Carrère-Dancause, vous animez des émissions médicales sur France 5 depuis 2002. Vous y étiez déjà depuis 1994, sur la 5e. On va parler de votre carrière, de votre parcours, de ce livre donc qui sort à quelques jours du 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz, mais aussi dans un instant de l'actualité de cette fin de semaine, bien sûr. Avant cela, Michel Simès, vous avez 30 secondes pour vous présenter. Vous en riez déjà à votre façon, donc très subjective aux auditeurs de RTL, c'est l'autoportrait, 30 secondes.
Il est de tradition dans les salles de garde de ne parler qu'en vers et en rime paillarde, mais soyez rassurés, chère Marie Drucker, je suis très bien élevé, je ne serai pas vulgaire, je suis un vrai docteur, médecin de profession, et je vis mon métier comme une vraie passion. Ne tenant pas en place et sensible à l'ennui, vers d'autres horizons, souvent je suis parti, on me dit carabin, grivois et obsédé, mais si grâce à l'humour je peux tout faire passer, c'est vrai, je le reconnais, c'est pas toujours léger, mais ma seule obsession, c'est bien votre santé.
C'est une première. Je vais peut-être vous surprendre, c'est une première en vers. Bah tiens, justement, je vais rebondir sur un sujet d'actualité, c'est cette fresque dans une qui n'aurait peut-être pas dû sortir d'ailleurs, puisque c'est dans le lieu de la salle de garde des internes du CHU de Clermont-Ferrand qui a fait polémique. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a condamné en disant que cette fresque peinte sur le mur n'était ni plus ni moins qu'une incitation au viol. On y va, Wonder Woman, dans une position assez, comment dire, avec quatre super-héros. Ouais. Mais c'est un peu une tradition des salles de garde, non ?
C'est pas seulement un peu une tradition, c'est la tradition dans toutes les salles de garde en France, d'avoir une fresque qui est en général peinte par des jeunes des Beaux-Arts. Enfin, moi, quand j'étais patron de la salle de garde de Chartres, j'avais fait venir des étudiants des Beaux-Arts qui m'avaient fait une fresque qui était un peu dans le même esprit que celle de Clermont-Ferrand. Et je trouve franchement, d'abord, ça devrait pas sortir, ça doit rester dans la salle de garde. Et puis ensuite, c'était Wonder Woman et d'autres super-héros qui étaient représentés avec certes des bulles qui avaient été rajoutées, qui pouvaient laisser penser qu'on imaginait c'était le ministre de la Santé. Mais franchement, c'est foutez la paix aux étudiants en médecine, laissez-leur respecter les traditions.
Le doyen a accepté que la fresque soit retirée.
Oui, parce que ça a fait du bruit, mais je veux dire, la réaction du ministre, la réaction du Conseil de l'Ordre qui trouve ça supportable. Moi, je me demande si les gens du Conseil de l'Ordre sont un jour déjà allés dans les salles de garde. Enfin, c'est hallucinant qu'on emmerde les étudiants en médecine. Laissez-les tranquilles et puis ils s'amusent et ça n'a rien de dramatique.
Michel Simès fait son journal inattendu en direct sur RTL jusqu'à 13h30. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 24 janvier.
Le journal inattendu, Marie Drucker sur RTL.
Claudia Priest, sans doute de retour en France demain. La Française de 67 ans avait été enlevée il y a 6 jours en Centrafrique. Je me sens légère, a-t-elle dit après sa libération. Son village de l'Ain attend son retour avec impatience. Élection législative anticipée en Grèce. Demain, Syriza, le parti de la gauche radicale, est donné vainqueur. Il pourrait prendre le pouvoir et appliquer son programme anti-austérité. Gros plan sur le système de santé avec la crise. Des centres de soins gratuits se sont créés un peu partout. Reportage à suivre. 144 millions d'euros, c'est la somme que vient de s'engager à restituer Stéphane Courby à Liliane Bettencourt. L'homme d'affaires doit comparaître à partir de lundi avec 9 autres prévenus pour répondre d'abus de faiblesse sur la milliardaire. Deuxième édition des 24 heures du sport féminin, journée spéciale sur RTL. Et dans ce journal, le témoignage de Catherine. Elle s'est reconstruite grâce à la pratique du sport après un cancer du sein. Du football, la 22e journée de Ligue 1, focus sur le PSG qui se déplace demain à Saint-Etienne. Michel Simès, vous avez souhaité parler du cas Laurent Blanc. Blanc est tenté de comprendre pourquoi il est si difficile d'être entraîneur de la capitale quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Autre sujet que vous avez souhaité aborder, Michel Simès, l'hyperactivité chez les enfants. Comment est-elle détectée? Comment est-elle traitée? Reportage et votre invité, le pédopsychiatre Olivier Revol. Le temps. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
La vigilance neige-verglas dont on parle beaucoup sur RTL depuis ce matin ne concerne plus que 5 départements.
Oui, le Cher, l'Indre, la Haute-Vienne, la Charente et la Dordogne avec des pluies verglaçantes. Alors jusqu'en milieu d'après-midi, la perturbation se retrouve en ce moment entre le nord-est, le centre, le massif central et le sud-ouest. Donc risque de précipitations glissantes sur le centre-ouest et de la neige, mais ça c'est plus classique, entre le nord-est et le massif central, 2 à 5 cm jusqu'en plaine. Près de la Méditerranée, c'est intense, sec pour cet après-midi, mais comme hier, on a de très violentes rafales de Mistral et de Tramontane, attention, jusqu'à 110 km/h sur le golfe du Lion. Et puis derrière la perturbation, donc c'est terminé, c'est le retour d'un temps sec sur le nord-ouest du pays avec des éclaircies et même des températures qui se radoucissent. 0 degrés cet après-midi à Aurillac, 2 à Lyon, 7 à Paris et Toulouse, 9 à Brest, 11 à Perpignan et 16 à Ajaccio.
Merci Patricia. Alors l'épisode aura été moins violent que prévu. En revanche, en Haute-Vienne, la neige a bloqué des routes, provoqué une dizaine d'accidents, faisant au moins 3 blessés légers. Ce restaurateur nous confirme que Limoges est une patinoire.
Un peu surpris ce matin. Je suis parti pour gratter la voiture et au premier coup de frein, la voiture est partie déjà un petit peu travers. Donc ça glissait et ça regelait immédiatement, ça regelait sur le pare-brise. Là, il pleut, un petit peu, des petites gouttes, il pleut et ça gèle. On devait se déplacer cet après-midi pour emmener mon fils basket à une dizaine de kilomètres. J'ai dit, je peux pas, on va pas y aller, hein, c'est pas la peine. Hein. Tout autour de Limoges, c'est vraiment une patinoire. Il faut aller doucement, il faut pas freiner brusquement, il faut être vigilant, voilà. Parce que moindre frein, moindre truc, vous partez là. Donc il faut faire très attention.
Voilà, faites très attention, ce restaurateur au micro RTL de Valentin Graff.
Le journal inattendu de Michel Simès
avec Marie Drucker sur RTL.
Laurent Fabius le confirme ce matin, Claudia Priès sera de retour en France demain. La Française de 67 ans avait été enlevée il y a 6 jours en Centrafrique. Libérée hier, l'humanitaire a décrit des conditions de détention brutales. Le maire de Pont-de-Vel, dans l'Ain, le village où vit Claudia Priès, se réjouit de ce dénouement rapide. Jean-Paul Moutot est au micro RTL de Romain Duchet.
Je suis très heureux pour elle. Je me l'imaginais mal dans une geôle tous ces jours derniers. Et bien sûr, et puis je pense à son mari, sa famille, qui devait être dans l'angoisse. Donc je souhaite qu'elle se reprenne très vite dans le cadre familial. Et bien, nous la reverrons quand elle décidera de revenir sur la commune.
Vous pensez déjà à l'accueil que vous allez lui réserver ?
Oui, mais vous savez, c'est une femme de tête, il en faut pour entreprendre ce qu'elle avait entrepris, mais c'est une femme discrète, hein, qui fait cela dans la grande discrétion. Et bon, je verrai avec la famille ce qu'ils souhaitent. Hein.
Jean-Paul Moutot, le maire de Pont-de-Vel, dans la au micro RTL de Romain Duchet. Après une campagne courte mais intense, les électeurs grecs s'apprêtent à donner leur confiance à Syriza, si l'on en croit les sondages. Crédité de 30% des suffrages, le parti de la gauche radicale serait en mesure de gouverner et d'appliquer en Grèce une politique anti-austérité. Le gouvernement Samaras a été fragilisé par sa politique de rigueur économique. La confiance est rompue avec une population grecque qui souffre toujours de la crise. Un exemple, on l'a choisi pour vous, Michel Simès, le système de santé. Un quart de la population n'a plus de couverture santé. Les malades poussent la porte des ONG ou des centres de soins créés bénévolement par des médecins. Il y en a déjà une quarantaine rien que dans la région d'Athènes. Bonjour Christophe Decroix. Vous êtes l'envoyé spécial de RTL. Vous êtes rendu dans l'un de ces dispensaires dans le centre de la capitale.
Oui, ça sonne à longueur de journée. Ce centre reçoit 40 à 70 patients par jour. Des médecins, dentistes et pharmaciens s'y relaient pour apporter des soins gratuits à ceux qui sont exclus du système de santé, comme l'explique Constantin, l'un des bénévoles.
Si on est au chômage plus de 3 mois maximum, on perd toute possibilité d'avoir des soins sanitaires dans le système public de la santé.
Il y a 25% de chômeurs auxquels il faut ajouter leur famille. Ceux qui ont un travail ont eux-mêmes du mal à payer la contribution qu'il aurait réclamée. D'où la multiplication de ces centres de premiers soins, dont l'action est toutefois limitée.
Si par exemple quelqu'un a besoin d'une opération, alors ça c'est la tragédie. Hein. Secondo, si cette personne doit avoir des médicaments en long terme, là c'est une autre question très très critique.
Alors des gens viennent donner des médicaments dont ils n'ont plus besoin et les députés du parti de gauche Syriza versent 20% de leurs émoluments pour financer financer ces centres. Une solidarité devenue indispensable à Hélène au chômage depuis 5 ans.
J'aurais pu aller à l'hôpital, mais il faut attendre des heures. Et quand tu as mal comme moi, c'est impossible d'attendre.
Est-ce qu'elle a, depuis qu'elle est au chômage, déjà renoncé à des soins ?
Oui, plusieurs fois, oui.
Et faute de prévention, je pense que Michel Simès nous le confirmera, les pathologies ne peuvent que s'aggraver.
Voilà, reportage de Christophe Decroix, envoyé spécial de RTL, en Grèce, à Athènes. Michel Simès, alors oui, les pathologies s'aggravent en cas de crise économique aussi.
Bien sûr, mais on sait depuis longtemps que le chômage est un facteur de risque d'être en mauvaise santé, mais pas seulement en Grèce. En Grèce, là, ça prend des proportions considérables, mais en France aussi, les chômeurs se soignent moins, ils peuvent avoir moins facilement accès aux soins. On a de plus en plus de Français qui renoncent à des soins, ne serait-ce que les soins dentaires, par exemple. Et quand on parle de soins dentaires, on a l'impression que c'est juste de l'esthétique pour avoir un beau sourire, mais pas du tout. Si vous avez des infections dentaires ou du parodonte qui soutient les dents, vous pouvez avoir des complications cardiaques, vous pouvez avoir des complications terribles sur toute la santé. Et ce qui se passe en Grèce est bien évidemment complètement disproportionné par rapport à ce qui pourrait se passer en France, mais on va avoir la même chose avec les chômeurs.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, en France, quand on sait que déjà, on a un système de santé qui est assez privilégié, si on le compare tout simplement aux États-Unis, hein, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là?
Le problème, c'est que le système français, qui est une des meilleures médecines du monde encore aujourd'hui, est une médecine par moment encore un peu trop élitiste, ou en tout cas une médecine qui s'adresse à deux vitesses, comme on dit, il est plus facile de se traiter et de se soigner bien quand on a de l'argent. Heureusement, il y a l'hôpital et je pense que la solution passe par les hôpitaux publics et elle passe par une revalorisation du métier de médecin, d'infirmière, d'aide-soignante dans les hôpitaux. Il ne faut pas laisser tomber les hôpitaux en France et que malheureusement, avec tout un tas de mesures qui ont été prises ces dernières années, l'hôpital ne va pas très bien. Oui. Et quand l'hôpital ne va pas très bien, eh bien, ce sont les gens qui ne peuvent pas se soigner en dehors de l'hôpital qui vont mal.
Le journal inattendu. RTL.
Dans 48 heures s'ouvrira à Bordeaux le procès Bettencourt. 10 prévenus devront répondre d'abus de faiblesse à l'encontre de la milliardaire de 92 ans, parmi eux Stéphane Courby. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Marie.
Vous suivez cette affaire pour RTL. À la veille du procès, l'homme d'affaires s'est engagé à rendre près de 144 millions d'euros.
Oui, il s'agit du premier rebondissement d'un procès Bettencourt qui n'a donc même pas débuté. L'homme d'affaires Stéphane Courby rembourse donc Liliane Bettencourt des sommes qu'il lui a empruntées en 2010. Des sommes colossal, vous l'avez dit, plus de 143 millions d'euros. Alors l'opération se fera en deux fois. D'abord 100 millions d'euros tout de suite et le solde dans deux ans avec les intérêts. Les coulisses de cette opération sont intéressantes à la manœuvre. Stéphane Courby et son conseil pour qui le remboursement de cette dette est un bon moyen d'entamer un peu plus léger le procès Bettencourt. Face à eux, Olivier Pelat, c'est un grand ami de la famille Bettencourt. Il a été nommé tuteur de Liliane Bettencourt et c'est lui qui s'active depuis des mois pour récupérer ou en tout cas tenter de récupérer les sommes trop généreusement versé par Liliane à certains des prévenus. Pelat est assisté des avocats bordelais de la victime, Maître Ducos-Ader et Arnaud Dupin. Les négociations s'étalent sur plusieurs semaines. On laisse entendre que la difficulté résidait surtout dans les garanties de remboursement de l'homme d'affaires Stéphane Courby. Et en fin de semaine, l'avocat Arnaud Dupin s'est déplacé à Paris pour finaliser l'accord. Liliane Bettencourt s'engage à ne plus être partie civile face à Stéphane Courby, mais l'homme d'affaires va tout de même comparaître lundi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour avoir abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt. Il risque, comme les autres prévenus, 3 ans de prison.
Merci pour ces précisions, Philippe de Maria.
C'est beaucoup, hein ?
C'est beaucoup.
Il faut avoir beaucoup d'argent pour rendre 144 millions de... Oh, dis donc, elle lui avait prêté ça.
Absolument.
Gentil. Voilà.
Merci. Philippe de Maria, tout de suite sur RTL avec Michel Simès pour la suite de son journal inattendu.
Le journal inattendu de Michel Simès
avec Marie Drucker sur RTL.
Le sport féminin est à l'honneur. Journée spéciale sur RTL à l'occasion de la 2e édition des 24 heures du sport. Le sport comme moyen de surmonter la maladie, c'est le cas de Catherine. Grâce au sport, elle s'est reconstruite après un cancer du sein détecté en 2009. Isabelle Langer l'a rencontrée pour RTL.
Moi, je faisais, avant d'avoir ce diagnostic du cancer, je faisais de la course à pied pour mon plaisir. Et je pense que ça avait laissé des traces déjà sur quelque chose qui m'avait porté. Et donc, quand j'ai senti que j'avais à nouveau besoin de me reconstruire psychologiquement, de reprendre la main, parce que je m'étais complètement... Enfin, la peur avait fait que je m'étais coupée de mon corps. Pour moi, le corps, c'était un lieu qui était un lieu de danger. Donc, le sport... Ça a été un moyen de réinvestir mon corps et de façon positive de ressentir une énergie, une force et la vie qui coulait dans mes veines. Et ça, c'est irremplaçable. S'entendre respirer, sentir le cœur qui bat à fond, ça, c'était vraiment génial.
Et donc, après, vous avez eu ce projet de marathon?
Assez vite, comme tout le monde parlait de « tiens, je vais faire telle course, tiens, je vais faire tel trail, ah, j'ai fait celui-là, etc. Et » et moi, je me suis dit « j'ai envie d'avoir un projet, j'ai envie de me lancer un petit challenge. » Et c'était assez symbolique parce que c'était l'objectif de courir le marathon l'année de mes 40 ans, donc c'était en 2012. Donc je lui ai dit « allez, je m'inscris sur le marathon de Paris et je le fais en 4 heures. » Et je me suis fait mon entraînement toute seule pendant 3 mois. Et j'ai couru mon marathon en avril 2012 et je l'ai fait en 4 heures.
Voilà pour ce témoignage, Michel Simès. Je m'adresse au médecin, bien sûr. C'est une bonne thérapie pour se reconstruire à la fois physiquement et psychologiquement, le sport.
Bien sûr, et la dame l'a employé le mot réinvestir son corps. Ouais, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand vous avez un cancer ou une autre maladie grave, votre corps devient pratiquement un ennemi contre lequel vous luttez, puisque c'est lui qui est responsable de tous vos malheurs. Et une fois que vous êtes traité, une fois que vous êtes guéri ou que vous allez mieux, refaire du sport vous permet de le réapprivoiser. Corps. Et c'est essentiel parce qu'on ne peut pas vivre avec un corps qu'on déteste.
Le sport que vous aimez d'amour, Michel Simès, c'est le football. Il y a un club que vous affectionnez particulièrement, c'est le Paris Saint-Germain. En préparant cette émission, vous m'aviez dit que vous étiez fan depuis 40 ans. Quand même.
Ouais, 74, Paris-Valenciennes monté en première division.
Ah voilà. Le PSG champion en titre, mais qui ne pointe actuellement qu'à la 3e place du classement derrière Lyon et Marseille. Son entraîneur Laurent Blanc est sous pression. Vous avez voulu comprendre pourquoi il était si difficile d'être entraîneur du PSG quand les résultats ne sont pas ceux que l'on attend. Notre spécialiste RTL du Paris Saint-Germain est là. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Troisième dans l'absolu, c'est pas si mal. Le problème, c'est qu'on attend mieux d'une équipe telle qu'elle est aujourd'hui, comme le Paris Saint-Germain. Alors, quelle est votre analyse ?
On attend forcément plus du Paris Saint-Germain parce que vous savez, il y a deux clubs en France qui sont des pôles d'attraction ou de répulsion qui sont le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Regardez l'Olympique Lyonnais. Les Lyonnais, pendant 10 ans, ils ont dominé le football français. Mais ils avaient finalement derrière eux un peu toute la France qui était gentiment pour eux quand ils étaient en Coupe d'Europe et puis un petit peu contre de temps en temps en championnat. Mais ça ne générait pas cette passion qu'il y a à Paris ou à Marseille. On aime le PSG ou on déteste le Paris Saint-Germain. Et en plus, il y a un phénomène qui vient se rajouter pour le Paris Saint-Germain, c'est que l'ensemble, il faut bien le dire, des grandes rédactions, qu'elles soient sportives ou autres, sont à Paris. Et il y a un sentiment autour du Paris Saint-Germain qui est une attente permanente, qui fait que tous les résultats sont scrutés, tout ce qui se passe au Paris Saint-Germain est analysé à la loupe et est amplifié ou dramatisé.
Michel Simès. Alors, vous qui suivez le Paris Saint-Germain, derrière les discours convenus de Laurent Blanc après chaque match, où finalement tout va pas si mal, où il s'entend super bien avec le président, où il n'y a pas de problème pour son avenir, la réalité, elle est où ?
Philippe Sanfourche.
Ça s'est bien amélioré, la situation de Laurent Blanc depuis quelques mois. Souvenez-vous, quand il est arrivé, on a toujours dit que c'était un remplaçant. Voilà, il était là par défaut. De toute façon, n'importe quel entraîneur aurait été là par défaut, puisque le PSG voulait garder l'ancien entraîneur qui était Carlo Ancelotti, qui avait décidé de partir au Real Madrid. Donc c'est un faux procès qu'on fait à Laurent Blanc. Et c'est vrai qu'il a mis du temps à gagner sa légitimité, mais aujourd'hui, il est soutenu par le président du Paris Saint-Germain.
Et par les joueurs.
Par les joueurs aussi.
On a beaucoup dit il n'y a pas longtemps que les joueurs risquaient de le lâcher. Alors heureusement, ils ont gagné leur dernier match, notamment en Coupe de France. Mais on disait qu'ils allaient le lâcher parce que finalement, ils estimaient qu'il n'était pas assez ferme malgré les sanctions données à Lavezzi.
Il a donné des gages de fermeté quand il a effectivement sanctionné Lavezzi et Cavani parce que le vestiaire, comme on dit, les joueurs étaient extrêmement en colère envers ces joueurs qui n'avaient pas respecté en fait la charte. Hein. Et il y a deux choses importantes pour les joueurs, hein, c'est les sous. Et c'est les jours de congé. Donc si on vient renier...
C'est horrible quand vous dites ça, c'est pas possible.
Merci pour le public.
Au-delà des trophées. Mais disons, dans le quotidien, dans la gestion du quotidien, c'est ça qui est important. Et Laurent Blanc a donné des gages.
Prochain rendez-vous demain ?
Demain, à Saint-Étienne, hyper important. Un vrai tournant de la saison. Si le Paris Saint-Germain gagne à Saint-Étienne, ils repartent dans une dynamique extrêmement positive. Si c'est pas le cas, effectivement, la crise est toujours sous-jacente au Paris Saint-Germain. Mais contrairement à ce qu'on dit, pour conclure sur Laurent Blanc, c'est quand même un garçon qui a la main. Et quand on l'appelait le président au sein de l'équipe de France, c'est aussi parce qu'il avait un rôle très important dans le vestiaire. Il y avait Didier Deschamps, le capitaine, et il y avait Laurent Blanc qui était un peu un capitaine bis. Ils n'avaient pas la même fonction, mais pour schématiser, le petit Didier Deschamps, c'était un petit peu le Sarkozy du vestiaire. Mmh. Et Laurent Blanc, il avait un côté un peu plus Chirac.
Vous m'avez fait peur, je croyais que vous alliez comparer à François Hollande.
Merci Philippe Sanfourche, et puis pour cette métaphore politique, pour terminer sur le Paris Saint-Germain. On marque une nouvelle pause, on se retrouve dans un instant en direct sur RTL pour le journal inattendu de Michel Simès. À tout de suite.
Le journal inattendu de Michel Simès
avec Marie Drucker sur RTL.
Autre sujet que vous avez choisi d'aborder dans votre journal inattendu, Michel Simès, c'est l'hyperactivité chez les enfants. D'abord, est-ce que c'est une maladie ? On en parle beaucoup.
J'espère pas parce que le spécialiste qu'on va avoir tout à l'heure en ligne n'arrête pas de me dire que je suis un hyperactif et que j'ai été un enfant hyperactif. Donc j'espère que c'est pas une maladie. Non, c'est une particularité qui peut être handicapante.
Alors nous avons rencontré Léo, il a 12 ans, il a été diagnostiqué hyperactif, il est suivi par le pédopsychiatre Olivier Revol, qui est votre invité dans un instant, Michel Simès. Mais d'abord nous allons voir comment Léo et sa famille vivent avec cette hyperactivité. Reportage aux Arcs pour RTL, Romain Duché.
Léo vient tout juste d'avoir 12 ans. Ce petit blond, très doué à l'école, adore le ski et les Lego, mais il l'avoue, il est parfois un peu ailleurs.
Quand je suis dans la lune, j'entends rien. J'écoute plus le prof, je fais n'importe quoi, j'arrête pas de jouer avec quelque chose.
Difficile pour lui de se concentrer. À cela s'ajoute une grande anxiété qui le pousse à être violent parfois.
Ah bah là, je pète les plombs.
Ça veut dire quoi, péter les plombs pour toi ?
Je m'énerve, je veux rien entendre, je déraille complet.
Un comportement qui a très tôt inquiété sa maman Anne.
Il avait souvent des colères, souvent des crises de nerfs, des choses un peu incontrôlables qui allaient même quelquefois jusqu'à se faire du mal à lui ou aux autres.
Première réaction pour les parents, la culpabilité.
Clairement, on s'est dit, on ne fait pas notre boulot de parents, parce que tout le monde nous le faisait ressentir quand même, que ce soit l'école, la garderie, notre famille un peu, et ça nous a mis vraiment le doute.
Jusqu'à ce jour de 2010, où le diagnostic tombe, Léo a 7 ans et il est déclaré hyperactif.
Pour nous, parents, enfin, on nous a dit, ne soyez pas coupables, vous n'y êtes pour rien.
Un traitement a pu être trouvé, mais les médicaments et les séances chez le psy ne règlent pas tout au quotidien.
Le soir, en faisant les devoirs. Par exemple, ils disent « Léo, viens faire tes devoirs ». Enfin, je fais « Non, attends, j'arrive ». J'embête mes parents, je les cherche. Enfin, je suis en rébellion complète.
C'est un combat de tous les jours, rien n'est jamais gagné.
Moi, j'ai tendance à peut-être trop considérer qu'il est malade. Je suis un peu plus laxiste avec lui et peut-être aussi parce que je me reconnais un peu dans ce qu'il fait.
Quant à l'avenir, il est bien difficile de l'imaginer pour Anne.
Je sais qu'on l'accompagnera tout au long de sa vie. On sera avec lui, on sera là pour... tempérer, aider, mais je n'arrive pas à me projeter plus loin en fait.
Léo, lui, est un enfant qui se dit heureux et qui envisage de grandes choses. Plus tard, il aimerait être constructeur de fusées ou champion de ski.
Eh ben, il a bien raison d'imaginer de grandes choses. Romain Duché, qui signe ce reportage pour RTL. Bonjour Olivier Revol.
Bonjour Marie.
Vous êtes pédopsychiatre à Lyon, c'est votre invité Michel Simès.
Oui, Olivier Revol, bonjour, on se connaît bien avec Olivier puisqu'il n'arrête pas de m'accuser d'être hyperactif. Je ne sais pas s'il a toujours le même diagnostic.
Rassure Michel, ce n'est pas une maladie.
C'est une formule ou c'est...
On peut même en faire un atout.
Alors, on a vu l'intelligence du petit Léo et la maturité qu'il a et le recul qu'il a.
Je crois qu'il a tout dit Léo, il a raconté exactement ce qu'il vivait, mais il vivait à l'école, à la maison et même dans ses loisirs, des difficultés liées à son hyperactivité.
Alors il y a quand même les parents qui sont toujours très inquiets quand on leur fait le diagnostic d'hyperactivité ou ce que vous appelez vous les TDAH, les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, et qu'on les met sous Ritaline ou d'autres médicaments équivalents. Est-ce que les parents sont toujours aussi inquiets aujourd'hui ?
Olivier Revol.
Alors, dans un premier temps, d'abord ça les rassure, parce que comme disaient les parents de Léo très justement, d'abord... ils semblent coupables d'avoir un enfant qui est en difficulté de partout. Et quand on leur met un diagnostic dessus, en expliquant que c'est un problème neurologique avec une difficulté au niveau du cortex frontal, de la région du cerveau, qui permet d'être attentif, ça les rassure. Alors ensuite, le médicament, c'est pas la chose qu'on fait en première intention. On donne des conseils, vous l'avez vu pour Léo. On donne des conseils à l'école, on donne des conseils aux parents. Et puis quand on leur a bien expliqué tout ça, et qu'on a prouvé que ce diagnostic reposait sur un certain nombre d'éléments, classique, eh bien, on peut proposer le traitement qui marche tout de suite ou qui ne marche pas. Dans le cas de Léo, ça lui a changé sa vie. Il y a un avant et un après.
Oui, on l'a entendu, Michel Simès.
On a entendu la maman de Léo dire qu'elle allait suivre son enfant toute sa vie, qu'elle allait être derrière lui, que lui, il n'est pas particulièrement inquiet. Tous ces enfants qui souffrent de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, ils deviennent quoi plus tard?
Ils deviennent souvent dans les médias, présentateurs télé ou dans le sport, dans le sport de haut niveau. Même si on leur a souvent dit, vous qui aimez bien le foot, leur entraîneur leur dit, replace-toi. Ou ces petits gosses qui sont très bons, je pense à un petit gars qui était très bon dans les cages, mais qui quittait la cage pour aller boire quand il avait soif en plein match, donc ça plaisait pas. Donc il y en a beaucoup dans les médias, il y en a beaucoup dans l'audiovisuel, bien entendu, il y en a beaucoup dans la restauration. Bref, ils vont utiliser leur capacité à faire beaucoup de choses, à être immédiatement efficaces, à répondre du tac au tac pour en faire une force.
Dernière question, Michel.
Vous ne parlez jamais d'échec. Alors finalement, à vous écouter, tous les enfants qui sont hyperactifs ou qui ont des troubles de l'attention réussiront plus tard grâce à cette particularité.
Mais c'est une chance. C'est une chance à condition qu'on les repère à temps et que les parents n'aient pas souffert trop longtemps du regard de la société. Et l'enfant n'ait pas trop souffert aussi du regard des enseignants et de ses camarades sur lui.
C'est ça le problème. C'est que moi, à mon époque, on diagnostiquait pas ça. Donc, on m'a laissé me débrouiller tout seul.
Ça vous a pas trop mal réussi. Hein. Bah voilà.
Oui. J'essaie de m'en sortir. Merci.
Merci beaucoup, merci Olivier Revol, pédopsychiatre à Lyon, d'avoir été l'invité de Michel Simès dans son journal inattendu. On marque une nouvelle pause. Dans un instant, le rappel des titres, la météo avec Michel Simès. Et puis on parle de vous et puis d'Hippocrate aux enfers, votre livre absolument passionnant et très instructif sur les médecins des camps de la mort. A tout de suite. Vous écoutez RTL, il est 13h.
Le journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité, Michel Simès, Marie Drucker.
Et l'on apprend à l'instant la mort de José Arthur. Il avait créé en 1965 et animé pendant près de 40 ans, avec une grande liberté de ton, l'émission culte Le Pop Club sur France Inter. Il est mort ce matin, il avait 87 ans. Il était hospitalisé depuis une dizaine de jours après un accident vasculaire cérébral. Claudia Priest de retour en France demain. L'humanitaire de 67 ans a été libéré hier après avoir été capturé en début de semaine par des miliciens anti-Balaka.
François Hollande et plusieurs chefs d'État attendu cet après-midi en Arabie Saoudite pour présenter leurs condoléances au lendemain de la mort du roi Abdallah. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, justifie la présence du président de la République au micro RTL de Romain Duchet.
C'est évidemment la place de la France, d'abord parce que nous avons de tout temps des relations extrêmement bonnes avec l'Arabie Saoudite, quels que soient d'ailleurs les présidents qui sont succédés ici. Vous savez que c'est un pôle de stabilité très important et économiquement, ça représente aussi pour nous un partenaire considérable. C'était tout à fait normal puisque nous connaissions bien le roi, comme nous connaissons maintenant son successeur qui est son demi-frère, le ministre de la Défense, que le président de la République soit là.
Dernière ligne droite de la campagne électorale en Grèce, avant les législatives anticipées de demain, après 6 ans d'austérité, le parti de la gauche radicale, Syriza, est donné grand favori.
Les sorties scolaires de nouveau autorisées, elles avaient été suspendues dans le cadre du plan Vigipirate après les attentats commis à Paris il y a un peu plus de 15 jours.
La météo, le temps pour cet après-midi, Michel Simès.
La météo pour cet après-midi, très hivernale, avec de la grisaille et de la pluie du sud-ouest au nord-est et de la neige jusqu'en plaine dans l'est. 5 départements toujours placés en vigilance. Orange, neige et verglas. Attention au risque de pluie verglaçante entre les Charentes, le centre et les Ardennes. Ailleurs, le temps est sec avec de belles éclaircies, mais avec de violentes rafales de vent en Méditerranée jusqu'à 110 km/h sur le golfe du Lion. Les températures pour cet après-midi de 0 à 16, 0 à Aurillac, 2 à Lyon, 7 à Paris et Toulouse, 11 à Perpignan, 15 à Nice et 16 à Ajaccio.
En fait, vous le faites tellement bien que je me dis que je vais faire ORL dès lundi, moi.
Je vous ferai votre journal inattendu la semaine prochaine, s'il vous plaît.
Marie Drucker, Michel Simès.
Le journal inattendu sur RTL.
Plus c'est long, plus c'est bon. N'est pas pour tout le monde. On va terminer ce journal avec l'histoire d'un patient américain qui a connu une érection ininterrompue pendant 8 mois.
Ça doit faire plus mal, voyez-vous.
Il s'appelle... Non plus, faut pas être chocotte.
Vous parlez des momies. Ça fait la deuxième fois qu'on doit vous parler des momies. Heureusement,
ce sont des
momies.
Elles peuvent attendre. Elles nous en voudront pas.
En fait, ça fait 2000 ans qu'elles attendent. 15 jours.
Vous pouvez me lâcher le bras, merci.
15 jours de plus.
Donc, vous n'aurez pas le sujet sur les momies aujourd'hui, comme Marina a tenté de vous l'expliquer. Et c'est parti.
Le tatoueur lui aurait proposé de dessiner 3 étoiles à la place. Et c'est là que les versions divergent. La jeune femme explique aujourd'hui.
Et c'est énorme. Enfin bon.
Qu'est-ce qu'elle dit? C'est à vous, là.
J'ai un testicule hypersensible au toucher.
Ah, ça, c'est dur. J'adore quand tu poses la question comme ça.
Comment vous dites la pose?
Non, parce que j'aime bien quand vous parlez de vous comme ça, un peu intimement. Ça fait bien que vous libériez. Ça. C'est important, Michel.
C'est marrant, dès que c'est sous la ceinture, ça vous fait rire. Hein, hein? Je vais m'occuper du. Je m'occupe de tout, vous inquiétez pas. Voilà, ça va aller.
Moi aussi, manifestement.
Ceci est Marie Drucker avec un fou rire.
C'est vrai qu'on vous reçoit régulièrement vos fous rires avec Marina Carrard-Dancos, Michel Simès, on ne s'en lasse pas. Vous êtes très complices dans la vie, non?
Ouais, on est très complices, on est très amis dans la vie. Et c'est vrai que, comme ça fait 17 ans qu'on fait l'émission, on se lâche un petit peu parfois.
Ouais. Ouais. Mais ça ne vous est pas reproché, les téléspectateurs de France 5 adorent ça, non?
Non, jamais. Non seulement ça ne nous est pas reproché, mais c'est maintenant la carte de visite de l'émission. C'est vrai que les sujets santé sont parfois un peu difficiles. On ne parle pas de choses marrantes dans l'émission et que le fait de sourire de temps en temps fait que voilà, ça rend les choses plus digestes.
Quel était l'objectif de ces émissions consacrées à la santé que vous animez à la télévision, à la radio depuis 20 ans maintenant?
L'objectif, il est d'essayer d'intéresser les gens à leur santé, non pas seulement en parlant des traitements ou des maladies, mais aussi en faisant comprendre aux gens, grâce à tout ce qu'on leur explique, que la prévention leur permettrait d'éviter de tomber malade. Et aujourd'hui, parler de prévention en France devient autre chose qu'un gros mot. Même la ministre de la Santé en a parlé. Tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il faut prévenir. Alors, la phrase classique, mais il vaut mieux prévenir que guérir, elle est évidente. Mais aujourd'hui, on comprend qu'on a tellement de moyens en médecine pour vous éviter de tomber malade. Ou en tout cas, si vous tombez malade, de dépister les choses assez tôt pour que la médecine puisse vous aider. C'est essentiel et c'est ce qu'on essaye de faire depuis toutes ces années.
Alors vous, Michel Simès, bon, quand on parle de prévention, éviter de tomber malade, on parle beaucoup ces dernières années de médecine douce, de médecine alternative, etc. Vous, c'est pas tellement votre truc, j'ai l'impression.
Ça n'était pas, parce que je suis comme tous les médecins qui sont sortis de la fac et à qui on a toujours expliqué que les médecines dites parallèles étaient du charlatanisme. Aujourd'hui, heureusement, je me suis plus ouvert. Ouais. Ces médecines, d'ailleurs, l'OMS les appelle plus des médecines parallèles, mais des médecines complémentaires. Le terme veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'elles peuvent apporter du bien-être, elles peuvent apporter d'autres choses que simplement du charlatanisme aux gens, à une seule condition, que ceux qui pratiquent ce type de médecine ne demandent pas qu'on arrête systématiquement tout ce qui est médecine traditionnelle. Si un médecin de médecine complémentaire ou un thérapeute vous dit arrêtez tout le reste et ne faites que ce que je vous dis, il faut partir en courant.
Et de toute façon, puisque vous parlez de charlatanisme, il y a des charlatans aussi bien dans la médecine classique que dans les médecines complémentaires.
Oui, bien sûr, j'ai des confrères qui sont de véritables charlatans. on pourrait y passer un petit moment, et c'est là où l'intérêt du Conseil de l'Ordre. Tout à l'heure,
Pas un charlatan d'ailleurs, parce que est-ce qu'un charlatan, c'est... Il y a des mauvais médecins qui sont pas forcément des charlatans.
Non, mais il y a
pas
des
abuser les patients.
Un charlatan, c'est un médecin ou autre qui vous fait croire à des choses qu'il ne pourra pas faire réellement. Un médecin qui vous parle de guérison alors qu'il sait très bien qu'on peut pas, c'est un charlatan. Un chirurgien esthétique qui vous dit, mademoiselle, vous allez devenir Adriana Carambeau, je pense au hasard, alors qu'il sait très bien que c'est pas vrai. C'est un charlatan.
Adriana Carambeau, on va en parler, puisque c'est votre autre camarade, après Marina Carrard-Dancos, dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2. Et ça aussi, c'est un duo qui marche très fort. La vision des Français de la santé, de leur santé, et de la médecine peut-être aussi, a-t-elle évolué?
En tout cas... Leur connaissance de la médecine a évolué. Moi, je le vois parce que je continue à exercer et à avoir des consultations dans un hôpital. Donc, je suis en contact avec les patients tout le temps. Ouais. Oui, il faut pas le dire, mais c'est pas grave. Vous l'avez dit.
Pardon.
Merci.
Pourquoi?
Non, c'est pas. Je veux pas me faire de pub.
Moi qui l'ai dit, c'est pas vous.
Non, c'est vous, mais ouais. Je veux pas. Je veux éviter que les gens le sachent pour pas savoir dans quel hôpital je vais, parce que vous savez, quand vous passez à la télé, vous êtes considéré comme le prix Nobel de médecine qui sait tout sur tout, ce qui n'est pas le cas. Je suis pas meilleur ni moins bon qu'un autre médecin. Et j'ai pas envie d'avoir mes patients à cause de ça. Donc, ce que je constate aujourd'hui dans mes rapports avec les patients, c'est qu'ils sont de plus en plus informés. Et c'est bien pour un médecin d'avoir des patients qui savent de quoi on parle, qui connaissent un peu mieux l'anatomie, qui connaissent un peu mieux les maladies, parce que ça nous permet d'aller à l'essentiel et de pas toujours revenir sur les bases de la médecine. Ça nous fait gagner du temps et ça nous permet d'avoir un dialogue enrichissant.
On marque une pause, tiens, sur RTL dans le journal inattendu de Michel Simès. On reste en direct ensemble jusqu'à 13h30 et juste après la pause, on parle du livre que vous publiez consacré aux médecins des camps de la mort, Michel Simès, qui s'intitule Hippocrate aux enfers.
Le journal inattendu de Michel Simès
avec Marie Drucker sur RTL.
On en vient à votre livre, Michel Simès, Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort, publié chez Stock en collaboration avec Laure de Chantal. On va contextualiser, comme on dit. Vos grands-parents étaient juifs polonais. Ils sont arrivés en France au début des années 20, 1922, je crois, quelque chose comme ça. Et vos deux grands-pères ont été déportés à Auschwitz.
Oui, absolument. Et ils sont morts là-bas et c'est vrai que ces antécédents familiaux font que je me suis intéressé depuis longtemps à tout ce qui s'était passé, notamment à Auschwitz, et ça a motivé d'ailleurs un voyage que j'ai fait là-bas parce que je voulais aller un peu sur les traces de mes grands-pères, et puis c'est en allant me balader un petit peu. Me promener, même si la promenade n'est pas forcément le bon terme, au milieu des baraquements à Auschwitz, que je me suis posé un certain nombre de questions qui m'ont entraîné à écrire ce livre.
Des questions, j'imagine, de petit-fils, d'hommes, de médecins.
Les questions de petit-fils, j'ai arrêté de me les poser depuis longtemps parce qu'on n'a pas de réponse sur la raison pour laquelle... il y avait ces barbares, mais je me suis posé plus des questions sur place de médecins devant les baraquements, devant les endroits où Mengele, Kloberg et autres médecins nazis faisaient leurs expériences. Là, je me suis posé la question, c'est mon cerveau de médecin qui s'est réveillé ce jour-là, en se disant, moi, j'ai fait ce métier pour aider les gens, pour sauver des vies, guérir, soigner, améliorer le bien-être des gens que je soigne. Je pense que tous les médecins au monde ont commencé ce métier pour ça. Mmh. Et un jour, ça bascule dans l'horreur et dans les expériences médicales dans les camps.
Justement, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs de RTL qui connaissent peu ou pas très bien cette partie de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de ces expériences, de ces expérimentations qui étaient, en fait, il n'y a pas de mots d'ailleurs, qui étaient menées de façon ignoble par les médecins nazis?
Oh, on peut leur dire une chose qui... au départ, moi, quand je l'ai apprise, m'a fait sourire. En 1933, les Allemands, Hitler, décident qu'il y aura une loi protégeant les animaux, interdisant les expériences sur l'animal, parce que ils trouvaient que c'était pas bien, que ça faisait souffrir les bêtes. Et quelques années plus tard, ils faisaient la même chose sur les êtres humains, mais que eux ne considéraient pas comme des êtres humains. C'est ça l'essentiel. C'est que aussi bien les Juifs que les Tziganes étaient considérés comme des sous-êtres humains sur lesquels on pouvait faire ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, pendant le procès des médecins de Nuremberg, y en a qui se justifiaient en disant qu'ils avaient demandé le consentement des déportés qu'on soumettait à ces expériences en leur disant qu'ils auraient des remises de peine. Donc déjà, les déportés, ils étaient à Auschwitz ou dans d'autres camps simplement parce qu'ils étaient juifs ou tziganes. Donc ils étaient condamnés et on leur proposait des remises de peine. C'était quoi ? Ils mouraient des expériences, donc ils risquaient pas d'avoir des remises de peine.
Mais ils le savaient pas, évidemment, avant. En quoi la réalité est-elle pire que ce que vous imaginiez ?
La réalité est pire que ce que j'imaginais parce que moi, quand j'ai commencé les réflexions autour de ces médecins, je me suis dit, comme sûrement beaucoup de gens, c'était des petits médecins. Ils n'avaient pas de compétences, ils n'étaient pas reconnus par leur père, ils n'avaient pas de titre ronflant. Et un jour, on leur a proposé, parce qu'ils ont eu de la chance, d'être médecin-chef d'Auschwitz, de Ravensbrück ou de Buchenwald, et que là-bas ils se sont dit tiens, ben j'ai droit de vie ou de mort sur des êtres humains et d'un coup, ils avaient pété les plombs complètement. C'est la réalité, c'est pas celle-là. C'est pas des petits médecins incompétents. La réalité, c'est pas des médecins frustrés. La réalité, ce sont souvent des gens très compétents en médecine et scientifiquement. D'ailleurs, faut rappeler. Et moi, j'ai un peu appris en écrivant ce livre et en regardant les archives que la médecine allemande était la plus grande médecine et des plus grands compétents en matière de médecine. Elle avait donné un nombre de prix Nobel incroyable durant toutes les années qui ont précédé la guerre. Donc, cette médecine était reconnue mondialement. Et tous ces médecins, finalement, enfin, en tout cas pour la plupart, il y a eu quelques sadiques, hein, il y a eu des types complètement givrés dans le groupe. Mais pour la plupart, ils avaient un raisonnement scientifique.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'était simplement c'était des barbares illuminés. Et puis, voilà.
Il y a eu des médecins qui étaient des illuminés. Il y a eu des exemples de grand sadisme. Mais pour la plupart, ils avaient, comme l'un d'entre eux a dit au procès de Nuremberg, il a dit « Je n'étais plus un médecin civil, j'étais un soldat. Ouais. Je devais obéir. Je devais obéir aux ordres. »
Alors, il y a un chapitre de votre livre, Michel Simès, qui est consacré à la faculté de médecine de Strasbourg. On est allé tourner un reportage. Elle avait été annexée et occupée par les médecins nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les professeurs français avaient été évacués à Clermont. Ils étaient restés jusqu'à la fin de la guerre. Les médecins allemands avaient pris leur place et plusieurs d'entre eux s'étaient livrés à des crimes au nom de la science, soi-disant. C'est le cas du professeur d'anatomie Auguste Hirt, qui avait fait tuer 86 déportés juifs. C'est une page très noire de l'histoire de la faculté de médecine de Strasbourg, où s'est rendu pour RTL Yannick Collin.
Une plaque à l'entrée de l'Institut d'anatomie de la Faculté de médecine de Strasbourg pour ne pas oublier 86 déportés juifs assassinés au nom de la science par les nazis. C'est dans ce bâtiment que pendant la Seconde Guerre mondiale, le médecin Auguste Hirt avait décidé de créer une collection de squelettes juifs. Le professeur Jean-Luc Kahn, directeur de l'Institut d'anatomie de Strasbourg.
Il a fait choisir à Auschwitz 86 juifs qu'il a fait transférer et qui ont été exécutés parce qu'il voulait faire ici un musée de la morphologie et du squelette juif dans l'optique délirante de quand il n'y aura plus un juif sur Terre, lui il aura son musée du squelette. Et quand les Alliés sont revenus, ils ont retrouvé dans le sous-sol et dans les cuves de cet institut les restes des cadavres des Juifs suppliciés par Hirt.
Au sous-sol, les cuves en carrelage jaune existent toujours. Elles étaient utilisées avant la Seconde Guerre mondiale. Elles l'ont été pendant et elles le sont encore aujourd'hui.
Ça, c'est des cuves avec alcool formol et dans lesquelles sont conservés les corps que nous recevons par don du corps à la science.
Mais l'histoire des corps des déportés continue d'alimenter tous les fantasmes. Jean-Luc Kahn.
Il ne reste bien évidemment strictement rien à l'Institut, et ce, depuis septembre 45, quels que soient les fantasmes négatifs.
Les étudiants en médecine entendent d'ailleurs souvent parler d'abord des rumeurs avant d'apprendre la vérité en cours, comme Frédéric, étudiant en 6e année.
Ça se traînait toujours, comme quoi c'était un vieux bâtiment, comme quoi il y avait les caves, que ça pouvait regorger de choses qu'on voulait garder. Ça devient un mythe, ouais, ça devient une légende, mais voilà, c'est... il n'y a plus rien.
Si aujourd'hui tous les étudiants apprennent ce qui s'est passé à l'Institut d'anatomie, il reste un travail de mémoire à faire sur ce qu'on commis d'autres médecins nazis qui ont exercé à Strasbourg, comme Eugen Hagen, un spécialiste des virus qui s'était livré à des expériences sur des déportés tziganes. Il aurait fait au moins une centaine de victimes, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de plaque commémorative sur l'Institut de virologie de Strasbourg.
Un reportage Yannick Collin pour RTL, pour le journal inattendu de Michel Simès. C'est fou en fait ce qu'on découvre à la lecture de votre livre. Est-ce qu'on peut dire que le corps médical dans son ensemble, point d'interrogation, a été subjugué à un moment par l'idéologie nazie.
Oui, il a été subjugué. D'ailleurs, Mengele dit lui-même que disait que c'était lors d'un discours de Hitler qu'il avait été complètement subjugué par le charisme du leader allemand. Et après, ils ont basculé. Alors, ils ont été subjugués, puis il faut quand même se dire qu'à l'époque, on essayait par tous les moyens, et c'était le but ultime, de sauver la race aryenne, de sauver les soldats, les militaires allemands qui tombaient, par exemple, c'est pour ça que Sigmund Rascher avait fait des expériences dans l'eau froide pour essayer de voir comment on pouvait sauver les aviateurs allemands qui tombaient, qui étaient abattus par les Alliés. Ils étaient bien évidemment subjugués et puis subjugués par le pouvoir. Et il faut pas oublier qu'ils portaient plus souvent l'uniforme SS que la blouse.
Michel Simès, son journal inattendu est sur RTL jusqu'à 13h30 en direct. Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort. On y revient dans un instant après la pub. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL,
12h30, 13h30,
avec Michel Simès et Marie Drucker.
Le médecin Michel Simès, et puis pédagogue de la médecine, on dit souvent vulgarisateur à la télévision.
Mais jamais vulgaire.
Voilà, non, jamais. C'est vrai qu'on vous a jamais dit que vous étiez vulgaire.
Jamais, on m'a dit parfois un peu olé olé, mais jamais vulgaire.
On parle de votre livre, Michel Simès, Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort, publié chez Stock. Y avait-il des médecins nazis d'ailleurs dans tous les camps?
Oui, il y avait des médecins. Enfin, il y avait, vous savez, il y avait plusieurs camps. Il y avait les camps d'extermination. Donc là, effectivement, les médecins servaient pas à grand chose puisque les gens arrivaient et puis étaient exterminés rapidement. Mais sinon, il y a eu des médecins nazis dans la plupart des camps. Les médecins nazis avaient pas uniquement comme rôle de faire des expériences. Hein. Ils étaient là, ils s'occupaient du ce qu'on appelait le revir. Le revir, c'était l'infirmerie qu'il y avait dans les différentes camps de concentration.
Qui n'avait d'infirmerie que le nom, parce que quand on lit votre livre et les livres des rescapés d'Auschwitz, l'idée c'était de ne jamais passer par le revir parce qu'on pensait.
On était sûr de penser voilà. Parce que de toute façon, le principe des camps, c'était de pas s'encombrer de gens qui ne servaient à rien et qui ne pouvaient pas travailler.
Pas
donc à partir du moment où vous étiez malade, vous alliez au revir et puis il y avait des sélections qui étaient faites par les médecins directement dans l'infirmerie pour les envoyer à la chambre à gaz. Donc directement. Et les médecins étaient aussi, et c'est le cas de Mengele, ils étaient sur Mengele était sur la Judenrampe pour faire la sélection.
Alors justement, Mengele, le médecin d'Auschwitz, qui passa des centaines d'heures à tuer, disséquer, autopsier, notamment pour percer à jour le secret des jumeaux qu'il fascinait, et qui, bien sûr, ne trouva jamais rien.
Ah non, ça n'existe pas.
C'était quoi cette fascination qu'il avait pour les jumeaux ?
Parce qu'il avait un maître à penser qui s'appelait von Ferschuer, qui était son prof à la faculté, et qui lui-même était fasciné par les jumeaux. Et donc Mengele a pris cette passion pour lui. Et on parlait des motivations de ces médecins, mais une des motivations de Mengele dans cette histoire de jumeaux, il était sur la Judenrampe, il criait Zwilling dès qu'il voyait des jumeaux, tellement il était heureux, c'était de se dire que si on trouvait le secret de la gémellité, on allait pouvoir peupler le monde deux fois plus vite.
Oui, d'rien.
Et bah oui, d'rien. Et c'est pas complètement stupide comme raisonnement, sauf qu'il n'y a pas de secret de la gémellité, on sait très bien. Mais comme ça l'énervait parce qu'il ne le trouvait pas, au début, il se contentait d'observer, de prendre des mesures, des examens, etc. Et puis comme il ne trouvait pas, un jour, il s'est dit, je vais supprimer deux jumeaux qui vont mourir en même temps, ce sera la première fois au monde que ce sera possible. Et il a assassiné des jumeaux de 2 ans, en même temps, d'une injection dans le cœur, et les a disséqués immédiatement pour essayer de trouver ce qu'il n'a jamais trouvé.
Ce qui est fou, c'est que ces expériences ignobles n'ont rien rapporté financièrement à leur auteur pendant la guerre. Alors pourquoi était-il convaincu d'œuvrer pour la science? Est-ce que sincèrement il le pensait?
Oui, sincèrement. Sincèrement, vous avez des médecins qui cherchaient le vaccin contre le typhus parce qu'il y avait des épidémies de typhus terribles dans les camps et qu'ils avaient peur de l'attraper eux-mêmes. Et puis surtout, les soldats allemands, les militaires allemands souffraient beaucoup aussi du typhus. Après, ils étaient tous convaincus qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose. Quand vous voyez Mengele qui ne comprend pas pourquoi les jeunes, il y a si peu de dieux bleus chez les blonds et qui dit tiens je vais injecter du bleu de méthylène dans le bleu dans les yeux marrons des petites ciganes pour voir si ça peut faire quelque chose, c'est un type qui se dit tiens je veux peupler le monde de blonds aux yeux bleus et il le fait. Et puis quand c'est à Sigmund Rascher dont on a parlé tout à l'heure avec ses histoires d'expériences dans l'eau froide ou même dans le froid sec, il faut penser, cette histoire est incroyable, c'est-à-dire que Sigmund Rascher veut essayer de voir comment on peut sauver les soldats allemands qui mouraient de froid dans l'eau. Alors il faut faire des tests scientifiques bien raisonnés, donc on en met dans l'eau froide à 2 degrés puis on voit tout nu combien de temps ils tiennent, en combinaison d'aviateurs combien de temps ils tiennent, mais il faut aussi voir comment ils survivent dans le froid sec, donc ils les mettaient sur des lits attachés en plein camp d'Auschwitz, bien sûr à l'extérieur, mais les cris des portés étaient tellement insupportables qu'ils ont demandé à les éloigner le plus possible du camp, ce qui fait que ces types-là étaient dans des zones où il n'y avait rien et on essayait de voir combien de temps ils tenaient. Donc ils ont tous une motivation scientifique, tous, ils oublient juste que ce sont des êtres humains qui sont en face d'eux.
Michel Simès, donc, qui signe chez Stock, Hippocrate aux enfers, les médecins des camps de la mort. Je vous recommande de lire ce travail, parce que c'est un travail aussi, et de pédagogie. Je pense que c'est très intéressant pour les jeunes générations. Merci beaucoup, Michel Simès, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'Olivier Revol, le pédopsychiatre de Lyon, qui était votre invité tout à l'heure sur l'hyperactivité des enfants, signe On se calme chez Jean-Claude Lattès. Et puis voilà, dans un instant, on va retrouver Jade et Jean-Michel Zeka pour Ça ne manque pas d'air. Bonjour les amis.
Bonjour Marie.
Absolument. Bonjour Marie. Qu'est-ce qu'on fait? On va danser, on va chanter.
Oui.
Alors on peut danser, mais on chante beaucoup surtout. C'est vrai.
Oui.
Mmh. On fait ce qu'on veut. Surtout moi, je vais rentrer chez moi, je vais danser.
Globalement, on chante assez moyennement. Il faut être honnête aussi. Bon week-end Marie.
Vous aussi, très bon week-end. On vous écoute sur RTL.
C'est gentil, au revoir.
Vous écoutez RTL.